on aborde les ressources pour connaître et défendre nos droits. Donc, on vient tout juste de laisser M. Rondeau de Éducaloi qui nous a mis la table pour connaître, en fait, davantage nos droits et responsabilités en tant que citoyens. Notre prochaine invitée, elle représente l'organisme Le Protecteur du citoyen, qui est un organisme québécois qui agit comme ombudsman, qui a pour mission de protéger les droits des citoyens lorsqu'ils utilisent les services publics québécois. C'est une institution neutre, impartiale et indépendante du gouvernement. Le nom désigne à la fois l'institution et la personne qu'il dirige. Le Protecteur du citoyen a été créé est entré en vigueur, en fait, le 14 novembre 68, en même temps que la loi sur le protecteur du citoyen. Donc, nous avons au bout du fil la protectrice du citoyen, Mme Raymonde Saint-Germain. Bonjour.
Bonjour, Mme Despomerleau.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Protectrice du citoyen, en quoi consiste exactement votre mandat?
Alors, le nom le dit bien, effectivement, protéger les citoyens lorsque le protecteur considère que leurs droits ont été lésés par un ou l'autre des services publics du Québec et s'assurer qu'il y aura un correctif adéquat pour que le citoyen soit traité avec justice, avec équité.
Puis, donc, quand on parle de services publics, ça peut faire référence soit à l'administration gouvernementale, des organismes publics, le réseau de la santé et des services sociaux aussi qui a été ajouté dans les dernières années.
Oui, tout à fait. Et ça peut être aussi des résidences privées pour personnes âgées qui sont ce qu'on appelle des résidences conventionnées, donc qui sont reconnues par le gouvernement.
Et puis... Est-ce qu'on est en mesure de dresser un portrait de la clientèle ou des gens qui font affaire au service du protecteur du citoyen?
Je vous dirais, dans le profil de notre clientèle, il y a toutes les catégories, tous les types de citoyens, depuis des personnes, des étudiants, par exemple, qui ont recours à l'aide financière aux études et qui considèrent que leur dossier n'a pas été évalué correctement, des aidants naturels pour des personnes plus vulnérables, qui sont en CHSLD, par exemple, ou qui sont hospitalisées, des entreprises, des petites entreprises qui ont des difficultés avec Revenu Québec, des accidentés de la route, des accidentés du travail, donc avec la CSST, avec Société de l'assurance automobile. J'ai envie de vous dire, si vous avez affaire avec un ministère, un organisme, un établissement de santé et de services sociaux du Québec, en cas de doute, appelez-nous et on va ou bien pouvoir traiter votre dossier ou sinon, on va trouver pour vous une ressource externe qui va pouvoir vous aider.
Donc, le protecteur du citoyen peut agir aussi comme référence, en fait.
Comme référence. Notre politique, c'est que on ne laisse jamais tomber un citoyen. Donc, parfois, la difficulté qu'il vit va relever, par exemple, d'un ordre professionnel. Alors, on va s'assurer de le référer au bon endroit, à la bonne personne, au bon numéro de téléphone.
Puis, vous avez nommé quelques exemples qui sont très variés, justement, passant, en fait, des personnes âgées qui sont en résidence, même privée, à l'étudiant qui fait une demande d'aide financière pour ses études. Est-ce qu'il y a, en fait, un parcours type avant d'arriver au protecteur du citoyen? Est-ce qu'il y a d'autres instances qu'on doit peut-être aborder d'abord ou... On commence directement avec vous en haut de la chaîne.
Bon, alors il y a deux volets à la réponse à cette question. Si ça concerne la difficulté du citoyen, un ministère ou un organisme public, directement, on vient au protecteur du citoyen. Incidemment, nos services sont sans frais, sont accessibles. On a une ligne 1-800, on a un formulaire de plainte sur notre site et on peut aussi formuler sa plainte par téléphone. Par contre, si la plainte concerne le réseau de la santé des services sociaux, que ce soit un centre jeunesse, un hôpital, un CHSLD, normalement, on porte plainte auprès du commissaire aux plaintes de cet établissement. Je dis normalement parce que il peut arriver une situation d'urgence où la personne, on considère qu'elle est en danger, qu'il y a nécessité d'agir rapidement. Alors, soit la personne elle-même ou soit quelqu'un qui se préoccupe de sa protection peut faire ce qu'on appelle un signalement au protecteur du citoyen. Et dans ces cas-là, nous allons agir directement.
C'est ça. Donc, on.
En premier niveau.
Oui, c'est ça. Le premier niveau, ça, c'est si on pense à vraiment la sécurité, l'intégrité de la personne qui pourrait être menacée.
C'est ça. Danger imminent. À ce moment-là, le protecteur va être là immédiatement.
Puis, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, de ce type de cas d'urgence? Est-ce que c'est fréquent?
C'est quand même assez fréquent. On reçoit dans l'année environ 150 signalements. Et nous retenons la plupart d'entre eux. Ce sera des situations toujours pour des personnes qui sont vraiment vulnérables. Par exemple, des résidences privées pour personnes âgées où on considère que les gens ne sont pas nourris adéquatement, que l'hygiène est déficiente. Ça peut être aussi dans un centre jeunesse, une situation d'isolement d'un jeune qu'on considère incorrect pour sa santé, non conforme au respect de ses droits. Alors, ce sont des situations comme celle-là. Et très généralement, ce sont des personnes vulnérables qui ne peuvent pas elles-mêmes porter plainte ou s'assurer que leurs droits sont bien respectés.
Madame Saint-Germain, vous avez été désignée protectrice du citoyen à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale du Québec en juin 2011 pour un deuxième mandat consécutif de 5 ans. Je voulais savoir comment est-ce que ça se passe, ce processus-là, en fait? Comment on nomme le protecteur ou la protectrice du citoyen?
Alors, c'est effectivement une nomination de l'Assemblée nationale qui, sur la recommandation du premier ministre, examine le dossier de la personne recommandée. Et toutes les formations politiques sont consultées. La personne doit recevoir l'assentiment, donc le vote, d'au moins les 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pour s'assurer que c'est une personne qui, à la fois, sera reconnue, jugée crédible par l'ensemble des partis. Et ça la rend, d'une certaine manière, ça confirme l'impartialité de cette personne-là. Alors ensuite, donc, il y a un vote par tous les membres de l'Assemblée nationale et le protecteur est désigné. Vous l'avez dit, j'ai été désigné à l'unanimité. Donc, l'ensemble des parlementaires avaient voté pour moi, mais c'est le cas aussi de mes 5 prédécesseurs. Je suis la 6e protectrice du citoyen du Québec et mes 5 prédécesseurs avaient aussi reçu un vote unanime, ce qui démontre bien que l'importance pour les parlementaires d'avoir une personne qui est au-dessus de la mêlée et qui, parce que dans ce travail-là, on est quand même appelé à faire des recommandations aux parlementaires, des recommandations au gouvernement, des commentaires publics. Alors, il faut que les parlementaires aient l'assurance que cette personne-là n'agit pas de manière partiale et que son seul intérêt, c'est le meilleur intérêt public et qu'elle considère aussi le point de vue et le bon fonctionnement des ministères et organismes, parce que dans certains cas, dans plusieurs cas même, le point de vue des ministères est un point de vue qui est justifié.
Tout à fait. Puis, et dont on doit prendre toujours en considération les deux parties.
Absolument. C'est l'équité, la justice, il faut entendre toutes les parties avant de tirer ses conclusions.
Oui. Avant de devenir protectrice du citoyen, Madame Saint-Germain, que faisiez-vous?
Alors, j'ai été au service public, donc au gouvernement du Québec, pendant un bon nombre d'années, dont une dizaine comme sous-ministre. J'ai été sous-ministre des services gouvernementaux, de l'immigration, des relations avec les citoyens. Donc, je le dis avec modestie parce que je pourrais avoir l'air de quelqu'un qui veut se mettre en évidence, mais votre question m'amène à dire que, surtout, ce que cela m'a donné, c'est une bonne connaissance du fonctionnement des services publics et une capacité de voir ce qu'on peut et ce qu'on doit faire dans toutes les situations qui sont soumises à mon attention. Alors, ça me permet aussi de contribuer à formuler des recommandations. C'est pas tout de trouver le problème, mais il faut trouver une solution. Et c'est pas toujours simple de trouver une solution. Alors, l'intérêt d'une longue expérience au sein de l'administration publique, c'est que ça permet d'être partie de la solution et ça donne aussi aux administrateurs publics, évidemment, une crédibilité là qui est essentiel dans cette fonction-là.
Tout à fait. Et justement, sur quelle base prenez-vous vos décisions?
Sur plusieurs bases, hein. D'une part, il y a très généralement une loi, un ou des règlements qu'il faut respecter, toute la notion des bonnes pratiques, la notion des engagements du gouvernement dans ses programmes, dans ses critères de service, la notion aussi qu'on appelle de l'équité. C'est-à-dire, parfois, la lettre ou le critère d'un programme, c'est très strict. Mais quand on regarde la situation du citoyen, on dit si l'interprétation est plus large, la situation de ce citoyen, elle correspond bien à ce qu'on voulait couvrir quand on a voté la loi, quand on a adopté le règlement ou quand on a préparé ce programme-là. Et très souvent, on va plaider la cause des citoyens sur le sens de la justice, sur le sens de l'équité. Cette personne-là, c'est clair que dans l'esprit du législateur ou dans l'intention d'un décideur, d'un ministre, on voulait la couvrir, cette personne-là. Alors, c'est comme ça qu'on regarde. Alors, il y a donc une foule de pratiques, une foule de règlements qui doivent être suivis. On a une méthode d'enquête aussi qui est très, très rigoureuse là, pour établir la réalité des faits. C'est quand même très important parce qu'un des objectifs du protecteur, c'est de prévenir le recours aux tribunaux. Vous savez,
oui.
Le recours, bien sûr, les tribunaux sont essentiels dans un état de droit, dans notre société, mais il ne faut pas que ce soit le premier recours. Il faut que ce soit en dernier recours. Il faut trouver des modes alternatifs pour régler les différends, plus rapides, moins coûteux. Et le protecteur du citoyen est un de ces modes-là.
Merci pour toutes ces informations. En terminant, si on choisit de faire une démarche auprès du protecteur du citoyen, combien de temps est-ce que ça prend environ pour examiner un dossier?
Bon, 75 % de nos dossiers vont être traités à l'intérieur d'un délai de 10 jours. Pour le 25 % qui reste, la réponse est très variable.
Ça dépend
de la complexité,
du dossier.
De la nature du dossier. Écoutez, il y a des dossiers, ça nous prend jusqu'à 6 mois parce qu'il y a plusieurs enjeux. Dans ces cas-là, nous informons le citoyen régulièrement de l'évolution de son dossier et surtout, et ça c'est vraiment important...
On va terminer là-dessus.
Un dossier n'est pas fermé tant qu'on n'a pas obtenu
la
mise en œuvre de nos recommandations.
Merci beaucoup, Madame Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen. Merci d'avoir été avec nous.
Au revoir.